Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre seconde émission spéciale sur les 75 ans du Conseil de l'Europe. Nous vous proposons aujourd'hui donc la seconde partie de notre entretien exclusif avec la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Madame Maria Pejčinović-Burić. Lors de la première partie de cet entretien, nous avons abordé l'épineuse question de l'expulsion de la Russie et du soutien du Conseil de l'Europe apporté à l'Ukraine. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les autres enjeux et défis auxquels cette organisation est confrontée. Nous commençons par les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, 8 mois après l'offensive militaire azerbaïdjanaise qui a déclenché l'exode de plus d'une centaine de milliers d'Arméniens du Haut-Karabakh.
Bah écoutez, les deux pays sont admis au Conseil de l'Europe la même année, c'est 2001. Et donc, quand ils ont été admis, ils se sont mis d'accord, ils ont dit qu'ils allaient faire de leur mieux de chercher la solution de pour les conflits qu'ils ont, qu'ils avaient déjà eu, il y avait déjà des guerres, d'une manière paisible et diplomatique. Donc c'est une responsabilité partagée de deux États. De notre côté, nous avons toujours appelé, moi j'ai toujours appelé quand il y avait bien sûr eu la crise, et la dernière n'était pas si, c'était vraiment l'année dernière. Donc on a toujours appelé qu'il faut chercher les moyens paisibles et pacifiques de trouver une solution. Donc notre réponse à cette dernière crise, c'était d'abord d'aider à l'Arménie, parce qu'il y a eu un énorme influx des gens de Karabakh qui se sont présentés dans quelques jours seulement en Arménie. Donc aucun pays ne pouvait pas d'un jour à l'autre gérer des besoins d'autant de personnes. Ils sont plus que 100 000. On a essayé, j'ai envoyé immédiatement ma représentante spéciale pour les migrations et pour y aller, pour voir quelle serait la meilleure façon pour le Conseil de l'Europe d'aider. Donc on a mis ce qu'on appelle un programme spécial qui vaut 2,8 millions d'euros pour aider cette population. D'autre part, moi je me suis présentée dans les deux capitales. J'étais d'abord à Bakou en décembre dernier et mon principal message, c'était que la Convention européenne des droits de l'homme s'applique dans tout le territoire des 46 États membres. Donc pour toute personne voulant revenir à Karabakh, ils doivent appliquer la Convention. Donc c'était parce qu'à l'époque, on se disait, oui, les gens se sont enfuis, mais c'est là où ils étaient nés, leurs ancêtres étaient là, donc ils ont tout droit de revenir, mais de revenir en dignité et en sécurité. Donc il y avait ces deux messages. Donc si les personnes voulaient rentrer, ça doit se passer en dignité et sécurité, et c'est ce que doit sécuriser l'Azerbaïdjan. Mais en même temps, j'ai réitéré ce que nous, on a fait depuis toujours avec les deux pays, c'est les mesures de confiance. Donc nous avons déjà fait, et par le passé, c'était assez bien de voir les jeunes, les journalistes, la société civile. On essaie aussi de trouver, si possible, les médiateurs publics qui se rencontrent et qui, pour des questions qui sont un peu en dehors de politique de tous les jours, de travailler ensemble et de trouver un moyen de se parler. J'étais aussi en Arménie cette année, donc j'ai parlé aussi au Premier ministre Pachinian, et j'ai passé le même message en disant aussi qu'il me paraît essentiel que les deux pays, par eux-mêmes, cherche un moyen de trouver une solution qui est pérenne pour la paix entre les deux pays, avec tout ce que ça, ça concerne. Ça concerne aussi la délimitation des frontières et beaucoup de questions qui sont très difficiles, qui prendront du temps, mais c'est bien que les deux pays se parlent. Par exemple, le jour où j'avais atterri à Bakou, les deux, il y avait eu une déclaration jointe. Donc, ça semblait à l'époque aller bien. Mais c'est vrai qu'il y a un pas en avant et deux en arrière. Donc, mais ce qui est important.
On est aussi sous l'influence russe aussi.
Voilà. Mais ce qui est important, c'est une zone géopolitiquement très, très bousculée et très importante en même temps. Donc, il ne faut jamais penser que c'est seulement le conflit entre les deux pays. Ça a une importance pour tout le continent, même la partie asiatique qui est voisine. Et donc, il faut vraiment. Le Conseil de l'Europe est un projet de paix. Donc, le message venant de la secrétaire générale du Conseil de l'Europe ne peut être autre que celle de la paix. Donc, j'ai toujours appelé à chercher la paix, en sachant que ce n'est pas facile, surtout quand il y a des crises, quand il y a eu les guerres, quand il y a toujours des personnes dont on ne sait pas le sort et tout ça. Tout ça, il y a une histoire qui pèse beaucoup, mais je crois qu'il faut, c'est un peu l'idée du Conseil de l'Europe de regarder de l'avant et d'essayer de surmonter les problèmes du passé. Mais en disant ceci, je sais que c'est un sujet très difficile, très sensible, mais il faut y travailler et il faut qu'il y ait les personnes qui sont courageuses et qui peuvent dialoguer ensemble, même quand il y a par-ci par-là aussi des voix qui sont plutôt les voix guerrières, etc. Donc il faut essayer de réduire les tensions et d'essayer de travailler là où il est important de travailler, où il est possible de travailler. Et à mon sens, chercher une paix durable serait bénéfique pour les deux pays, mais pour l'Europe et pour le Conseil de l'Europe en tant que.
Le Conseil de l'Europe pourrait bientôt à nouveau compter 47 États membres. En avril, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a donné un avis favorable à l'adhésion du Kosovo. La décision finale appartient donc au comité des ministres qui se réunira donc fin juin. Que pensez-vous, vous, de cette adhésion, sachant que certains États membres ne reconnaissent pas l'État du Kosovo ?
Bah, écoutez, cette question est très complexe, on le sait tous, mais cette question, comme vous l'avez justement mentionné, est dans les mains de notre comité des ministres. Donc, on avait eu une ministérielle qui n'a pas eu ça sur l'agenda. Il y a quelque chose qui est encore à faire du côté de Kosovo. Mais bien sûr, c'est quand cette question sera sur l'agenda, ça sera décidé par nos ministres. Donc, pour la secrétaire générale, il y avait seulement un travail au départ, ce qui était de transmettre la lettre que j'ai reçue au comité de ministres.
Alors, pour rester un peu dans l'actualité du Conseil d'Europe, l'actualité du moment, le comité des ministres a adopté la convention cadre sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pensez de cette convention cadre, puisque c'est la première convention sur l'intelligence artificielle, et pensez-vous qu'est-ce qu'elle apporte en matière de droits de l'homme ?
Bah, écoutez, si je peux dire comme cadre général, c'est, le travail sur cette convention montre que le Conseil de l'Europe prend l'âge, donc il a 75 ans maintenant, mais il s'adapte toujours aux besoins et défis de présent. Donc maintenant, il y a la question de l'intelligence artificielle qu'on a cru pendant de longues années qu'elle apporte, comme technologie d'ailleurs, qu'elle apporte seulement des bénéfices, mais on s'est rendu compte que ça peut aller aussi au détriment des droits et des libertés fondamentaux. Donc on s'est dit, qui autre que, sinon le Conseil de l'Europe, ne fera pas un travail d'envergure sur réunir des États membres du Conseil de l'Europe, mais aussi d'autres pays autour du monde, parce que c'est une question globale. Donc pour négocier ce traité, on a pris plusieurs années. On a tous les 46 États membres, on a tous les pays de l'Amérique du Nord, on a quelques pays de l'Amérique du Sud, on a l'Australie, on a le Japon et la Corée du Sud, mais on a aussi Israël. Donc on a eu, mais ce qui était intéressant cette fois-ci, on a réussi 70 autres acteurs qui étaient venaient de sociétés privées, de la société civile, de l'académie, etc. Donc tous ces gens-là ont fait un grand travail et je suis très reconnaissante qu'on a pu terminer le travail pour avoir adopté cette nouvelle convention cadre à notre ministériel au mois de mai ici à Strasbourg. Et en fait, elle est un traité global, à portée globale. On va, j'espère, l'ouvrir à la signature d'ici quelques mois à Vilnius. S'il y a une question qui presse aujourd'hui d'avoir un cadre juridique en ce qui concerne tout le cycle de développement et d'application de l'intelligence artificielle, c'est vrai que le temps compte, parce que surtout maintenant, ces technologies se développent aussi vite. Donc, il était important de négocier, d'adopter. Maintenant, c'est important de la ratifier et de la mettre en œuvre, parce que c'est vraiment crucial, mais pas seulement pour les pays européens, mais aussi pour le monde entier.
On arrive à la fin de cette interview. Il nous reste deux petites questions. Les droits de l'homme et l'état de droit en général, ainsi que les décisions de la Cour en particulier, sont de plus en plus critiquées. On en a parlé tout à l'heure, qu'il y a des voix qui sont de plus en plus, on va dire, illibérales, ou que c'est un peu comme ça qu'on les appelle dans certains pays sur ces sujets-là. Comment vous expliquez cela et comment le Conseil de l'Europe peut agir pour faire respecter finalement ses arrêts de la Cour?
Bah, écoutez, ce que je dis toujours à nos États membres et à toute personne me demandant la question pour les arrêts finaux de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a pas de l'exécution des arrêts à la carte. Elles doivent, par la loi, elles doivent être mise en place. Donc, aucun État ne peut avoir l'exception. Il est normal qu'il y ait dans les sociétés démocratiques, qu'il y ait des débats autour des arrêts de la Cour, mais le principe de que c'est par la loi que les États membres doivent les mettre en œuvre, c'est ça. Donc, chacun a droit à son avis, mais dans notre système fondé sur l'État de droit, il n'est pas question que les arrêts ne peuvent ou ne peuvent pas être exécutés. Ils doivent être exécutés.
Et la dernière question, il y a eu un arrêt là, récemment sur un sujet qu'on a appelé historique, c'est la condamnation de la Suisse par la Cour européenne des droits de l'homme pour inaction climatique. Comment vous considérez, vous aussi, vous considérez que c'est un pas historique pour la Cour d'avoir retenu d'avoir
fait cet arrêt ? Absolument. Je crois qu'il y avait eu beaucoup d'attention un peu partout, les gens venant des différents milieux voulaient voir les choses différentes. Je crois que ce qu'on a vu, que la Cour a jugé que la Convention consacrait un droit à une protection effective par les autorités de l'État contre les effets néfastes et graves de changements climatiques sur la vie, sur la santé, le bien-être et la qualité de vie. Donc elle a aussi considéré que l'association requérante avait été habilitée à agir pour se plaindre des menaces liées au changement climatique en Suisse. Mais soyons clairs, bien que l'affaire concerne la Suisse, car les requérantes sont suisses, je pense que cet arrêt devrait nous pousser pour trouver davantage de solutions communes parmi nos 46 États membres pour répondre aux défis posés aux droits humains par le changement climatique. Et d'ailleurs, c'était aussi au centre de nos décisions, mais aussi des discussions au sommet de Reykjavik.
Vous terminez votre mandat de secrétaire général du Conseil de l'Europe. Êtes-vous optimiste avec tout ce qu'on a dit là? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir du Conseil de l'Europe et de l'Europe en général?
D'abord, je suis optimiste par nature, ce qui aide dans les situations qui sont difficiles. Revenons au problème qu'on a, ou plutôt au défi qu'on voit. Oui, je suis optimiste parce que le Conseil de l'Europe a toujours su s'adapter et trouver des solutions qui aident nos États membres pour chercher et trouver les bonnes réponses. Mais ce qu'il faut aussi, c'est avoir la volonté politique de nos États membres de mettre en place tout ce qui est les standards et les principes du Conseil de l'Europe. Donc, ensemble, on peut faire avancer les choses. On ne peut pas prévenir les crises futures. Il y aura par le futur. Mais ce qu'on peut faire, c'est de faire une résilience par une voie de travailler encore plus sur les principes et les libertés fondamentales. D'abord, pour les protéger par tous les moyens, surtout juridiques, mais pour le faire, il faut vraiment avoir aussi une force et volonté politique de tous de le faire, et je crois qu'ensemble, on y arrivera.
Alors merci Madame Pejčinović-Burić d'avoir participé à cette émission et de nous avoir consacré beaucoup de temps, peut-être plus de temps que ce qui était prévu.
Merci à vous.
Quant à nous, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle émission Fréquence Europe. À bientôt.
À bientôt, merci.
C'est donc par cette rencontre avec Madame Maria Pejčinović-Burić que se conclut la 13e saison de l'émission Fréquence Europe sur Radio Judaïka. Nous sommes très heureux avec le Centre d'information sur les institutions européennes de vous faire partager la vie des institutions européennes et l'actualité européenne sur votre radio, Radio Judaïka Strasbourg. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur le site radiojudaicastrasbourg.fr, émission Fréquence Europe. Je vous donne rendez-vous très certainement à la rentrée. D'ici là, un bel été à tous.